phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Vous savez que moi, si j'ai accepté de travailler ici cet été, c'est en attente de ces moments exceptionnels où je rencontre Christian Page pour tous ces mythes et complots. Christian, tu fais ma semaine.
Ah, ben merci beaucoup, Jean-Luc.
C'est gentil, hein?
Ouais,
c'est pas sûr que c'est vrai, même comme tes mythes et complots.
Ouais, c'est comme... c'est un tapis rouge. Écoute, Jean-Luc, j'écoutais tes intervenants, ta ligne ouverte, les intervenantes qui parlaient, puis on parlait beaucoup de voyage. Mais aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, c'est une chronique sous l'égide du voyage. Je vais te faire voyager beaucoup sur Terre et aussi dans l'espace. On va commencer sur Terre, si
tu veux. Pas sur les airs d'Air Transat.
Non, pas sur les airs d'Air Transat.
Okay.
Mais peut-être des destinations polynésiennes qui sont offertes par Air Transat.
Oh.
Mais... Tu sais, Jean-Luc, quand on parle de l'histoire, hein, dans les ouvrages archéologiques, tout ça, même quand on était gamin, on lisait toutes sortes de trucs.
Oui.
Et il y a des énigmes. On sait que plusieurs civilisations ont développé des éléments communs, même si ces civilisations ne pouvaient pas avoir de contact entre elles.
Okay.
Je pense notamment au Pérou, on le sait, les Incas ont construit des murs, des cités, et on retrouve le même genre de maçonnerie, par exemple, sur l'île de Pâques. Et là, on se dit, les Incas n'avaient pas les moyens de se rendre sur l'île de Pâques, ou les gens de l'île de Pâques, qui s'appellent les Rapa Nui, n'avaient pas les moyens de se rendre au Pérou pour montrer aux Incas comment ils faisaient. Donc, comment on explique ce genre d'éléments communs? Pourquoi les Égyptiens ont-ils construit des tombeaux en forme de pyramides?
Mmh.
Et les Mayas d'Amérique centrale ont également construit des pyramides. D'où vient cette idée de la construction identique? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui a été échangé par des connaissances? Alors, en particulier dans le cas de la Polynésie et l'Amérique du Sud, on retrouve beaucoup d'éléments communs. Et ce qui a amené des gens à spéculer en disant, ben peut-être que les Incas, hein, on le sait, avaient développé de la navigation le long de la côte et également de la navigation sur le lac Titicaca, par exemple.
Oui.
On s'est dit, est-ce qu'il est possible que ces gens-là aient construit des bateaux ou des radeaux qui auraient pu les amener jusque dans les îles de la Polynésie?
Pas impossible.
Et je te rappelle, ben en fait, pas tout à fait impossible, je te rappelle, c'est loin, tu me diras, mais en 1947, il y a un explorateur légendaire qui s'appelle Thor Heyerdahl qui avait construit un radeau qu'il a baptisé le Kon-Tiki et qui a mis son radeau à l'eau en utilisant exactement les mêmes techniques utilisées par les Incas de l'époque. Et après 101 jours de dérive, il a échoué sur l'île de Tuamotus, en Polynésie.
Écoute, le seul Kon-Tiki dont je me rappelle, c'est le bar de l'hôtel. Le bar-restaurant de l'hôtel Sheraton Mont-Royal.
Oui, effectivement. Non, là, on n'est pas du tout dans le même Kon-Tiki.
En fait, c'est pas ce bar-là.
Non, il a donc dérivé son fameux radeau sur une distance de 6900 kilomètres. Donc, Thor Heyerdahl a démontré que c'était faisable, c'était possible.
Oh.
Mais la plupart des anthropologues, des historiens ont dit, même si c'est possible, c'est peu vraisemblable.
Ouais.
Donc, il faut essayer de trouver de nouvelles hypothèses. Et inutile de dire que les amateurs de mystère ont trouvé une toute faite.
Attends, dis-moi-les pas. Pas les extraterrestres.
Ah! C'était tout à fait raison. C'est la théorie qu'on appelle sous le nom de la théorie des anciens astronautes. Il y a même une série documentaire très populaire à la télé.
C'est les paillettes.
Ouais, c'est ça. Donc, les anciens astronautes.
Les paillettes Garneau.
Ouais, c'est ça. Donc, les anciens astronautes, c'est l'hypothèse voulant que des extraterrestres, dans l'Antiquité, aient échangé de l'information avec les Égyptiens, les Incas, les Mayas, d'où le fait qu'on a ces éléments qui sont communs à toutes ces civilisations. Mais là, voilà qu'un article publié dans le très sérieux magazine Nature vient de jeter un pavé dans la mare des théoriciens de ces contacts extraterrestres.
Eux autres, ils l'ont la réponse, là. Nature.
En fait, il s'agit d'un article qui est signé par une poignée, là, je l'ai lu. Écoute, il doit y avoir une trentaine de scientifiques qui ont participé à l'étude. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris un échantillonnage sur 800 personnes qui sont des gens du peuple andin qui vivent le long de la côte de l'Amérique du Sud, donc des autochtones locaux, ils n'ont pas de descendance espagnole là, à partir de l'arrivée des conquistadors.
Mmh.
Et ils ont comparé leur ADN à l'ADN des insulaires qui vivent dans les îles de la Polynésie. Et crois-le ou non, ils ont découvert des ramifications au niveau des gènes. Ces gens-là ont des ancêtres communs et on peut même mettre le doigt sur à peu près l'époque où ça s'est produit, c'est-à-dire à peu près il y a aux alentours de l'an 1200 après Jésus-Christ. À cette époque, les Polynésiens, hein, les peuples insulaires, se sont lancés dans de très, très grands voyages d'exploration. Ils ont visiblement découvert l'île de Pâques. Ils ont découvert l'archipel des îles Hawaï. Ils ont découvert la Nouvelle-Zélande. Et visiblement, ces gens-là se sont rendus jusqu'en Amérique du Sud. C'est donc pas les Incas qui sont allés vers la Polynésie,
mais
les Polynésiens qui sont venus vers les Incas.
Ils se sont fait des cousins puis des matins.
Des cousins. Il y a eu des échanges culturels, probablement également...
Sexuels.
Voilà, parce que comme on a des ramifications ADN, bien sûr, il y a eu un métissage entre ces populations. Donc maintenant, on a une preuve scientifique indéniable, la preuve ADN, qu'il y a eu des contacts passés entre les peuples andins de l'Amérique du Sud et les gens de la Polynésie. Il ne faut donc pas s'étonner que certains éléments architecturaux se retrouvent, par exemple, chez les Incas, et on le retrouve, par exemple, en Polynésie ou dans l'île de Pâques. Il y a même des mots qui sont assez commun, j'en ai un ici pour toi.
Ah oui.
En Polynésie, la pomme de terre s'appelle la kumala. Et en Équateur, les autochtones, les natifs de l'Équateur appellent la pomme de terre le kumal.
Donc, ah, kumala, c'est pas loin, ça, là.
Kumal. Donc, on voit qu'on a des mots qui sont très semblables.
Ils ont échappé une lettre en jouant au Scrabble, là, mais...
Voilà. Ils ont développé aussi des outils qui sont assez semblables. Par exemple, pour battre du blé, ils ont une espèce de bâton en bois qui frappe pour dégager les grains.
On retrouve un fléau,
ça,
là.
Oui, on retrouve ça en Amérique du Sud et on retrouve ça également en Polynésie, le même genre d'outils avec des noms très semblables, la même utilisation. Donc, ce métissage, il a bel et bien eu lieu, même si cela nous semble un peu invraisemblable à cause des énormes distances de l'océan qui séparent ces différentes communautés, mais les extraterrestres en ont pris pour leur rhume. Si on trouve des œuvres de maçonnerie sur l'île de Pâques qui ressemblent à celles des Incas, c'est plutôt la hardiesse et l'imagination des humains qui a amené ça et non pas des extraterrestres venus d'ailleurs.
Parce que si tu regardes la migration des peuples anciens et préhistoriques, il y a eu ces migrations-là, évidemment, passées en terre d'Amérique, etc., etc. Alors donc, c'est plausible que ces gens-là aient fait ces excursions et ces aventures.
Oui, la problématique ici, c'était l'océan. Hein? On était plutôt d'avis que les peuples de la Polynésie, ou comme ceux d'Amérique du Sud, n'avaient pas développé un art maritime suffisamment développé pour pouvoir se permettre de très, très longs voyages dans l'océan. Mais là, visiblement, ces preuves ADN viennent contrecarrer ce contre-argumentaire.
Ben là, on va faire une petite pause et nous aussi, on va voyager. Et l'autre bord de cette pause commerciale, je te retrouve pour parler de microbes martiens.
Extraterrestre.
On revient tout de suite.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
Je me rappelle d'avoir été figé, scotché, comme on dit en France, sur mon fauteuil pour voir les astronautes atterrir sur la Lune, la planète Lune. Mais là, je ne serai pas là pour la planète Mars. 2050, tu dis, le voyage?
Oui. Mais c'est amusant, Jean-Luc, que tu mentionnes les vols des missions Apollo, hein, parce que cette semaine, on soulignait le 51e anniversaire de l'atterrissage d'Apollo 11, qui avait vu débarquer Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Oui. Et comme tu dis, tous les gens, moi, à cette époque, je suis un petit peu plus jeune que toi, j'avais 6 ou 7 ans, et je me rappelle, mon grand-père m'avait fait lever durant... C'était la soirée, hein? L'heure internationale, il était 2h56, heure internationale, mais il était aux alentours de 10h, là. C'était 9h56, je crois, à Montréal. Donc, mon grand-père m'avait fait lever, m'avait assis devant le téléviseur. Mais bon, t'as 6 ans, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et mon grand-père m'avait dit, regarde ça, tu vas t'en rappeler le restant de tes jours. Et effectivement, je n'ai jamais oublié ces images. On se rend pas compte qu'on assiste à un événement historique. Mais je suis content de dire, j'ai vu, je me rappelle, il y avait le professeur Jacques Lebrun qui animait l'émission de
c'est
télé.
C'est lui qui faisait la description.
Et il faisait la description et il pleurait à l'écran. Là, on voyait Neil Armstrong sur la Lune. Puis là, ça clignotait à l'écran. Ça disait Armstrong est sur la Lune. Hein, ça clignotait dans le bas de l'écran.
Ouais,
et
ouais,
Jacques Lebrun pleurait en disant, on assiste à un moment de l'histoire.
Il y avait encore des gens qui y croient pas.
Ah ben là, écoute...
Non, mais ça tombe bien dans ta chronique.
Oui, absolument. J'en ai souvent parlé de cette théorie du complot. D'ailleurs, je viens de te souligner, Jean-Luc, que cette semaine, il y a sur un site web qui s'appelle la Deutsche Machine, qui se spécialise notamment dans l'image, dans l'imagerie 4K. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont repris des images des missions Apollo, notamment le débarquement de Neil Armstrong. Moi, je me rappelle, et probablement tu te rappelles de ça.
Bien sûr.
Armstrong avait été filmé par deux caméras. Au moment où il descendait l'échelle du LEM, il y avait une caméra à l'intérieur du LEM qui le filmait en plongée, si je puis dire.
Oui.
Et il y avait une caméra qui avait été déployée sur le côté du LEM qui le montrait au moment où il a fait son premier pas.
Ouais.
Et ces images-là étaient de mauvaise qualité quand on voyait ça à la télé. Bon, bien sûr, il y en avait une, c'est une caméra de télévision qui transmettait, donc ça, c'était pas très bon. Et la caméra à l'intérieur du LEM, même si c'était du film 16 mm, la résolution de nos téléviseurs à l'époque, on voyait une espèce de bonhomme Michelin qui descendait sur une échelle.
Ouais.
Là, maintenant, on a refait toutes ces images-là au cours des derniers mois en 4K. Et écoute, j'ai revu ces images-là. Armstrong qui débarque sur la Lune. On voit les plis dans sa combinaison au moment où il descend. C'est tout à fait remarquable. C'est un grand moment. C'est l'expérience, l'aventure la plus audacieuse jamais tentée par les êtres humains.
Absolument. Hey, je te ramène, là.
Oui, t'as raison.
On était dans la Lune, là.
Oui, absolument. On était dans la Lune. Écoute, je te parle de la NASA parce que, bon, cette semaine, et peut-être justement à cause de ce 51e anniversaire du premier alunissage, la NASA a émis cette semaine un communiqué. En fait, c'est un document de 6 pages qu'elle a envoyé à ses différents bureaux, départements, ainsi qu'à ses sous-contractants, en leur disant il va falloir développer des mécanismes excessivement pointus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination extraterrestre. Ça peut paraître ça peut paraître farfelu, mais c'est vrai que maintenant la NASA commence à percevoir de plus en plus l'horizon est de plus en plus là. On va aller sur Mars. On pense y aller d'ici 2050. Et jusqu'à maintenant, les missions robotiques sur Mars, parce qu'au moment où on se parle, il y a un ou moins petit robot qui se promène sur Mars. On n'a pas trouvé d'éléments pathogènes. On n'a pas trouvé de vie sur Mars. Mais elle pourrait exister cette vie dans le sous-sol de Mars ou dans certaines régions où il pourrait y avoir de la glace, voire même de l'eau liquide à certaines époques sur Mars. Et on veut s'assurer que les astronautes qui reviendront de Mars n'amèneront pas de virus ou d'éléments pathogènes sur Terre et veulent également que nous, les humains, on n'aille pas non plus contaminer l'environnement martien avec des microbes de la Terre.
Ah, ben il reste 14 jours là-bas s'ils partent avec la COVID.
Ouais. Ça va prendre à peu près 6 mois aller. Ils vont rester sur Mars un an, peut-être, de 6 mois à un an avant de revenir. Donc, on parle vraiment d'un voyage de 2 ans et demi à peu près pour le compléter, là. Mais c'est sûr qu'on va se retrouver dans un environnement étranger. Et même si on se dit il y a à peine quelques décennies, tout ça nous semblait être de la science-fiction, ben maintenant, l'homme vers Mars, des missions habitées vers Mars, ben commence à faire partie d'une réalité qui n'est pas si loin dans le temps. Et il faut bien sûr penser à ça. Et bien sûr, le COVID-19 est un bon élément qui nous montre à quel point une pandémie peut rapidement se répandre. Et bien sûr, sans besoin d'évoquer le roman de Wells et La guerre des mondes, qui est un virus terrestre qui avait finalement dissimé les Martiens, on voudrait pas, nous, se faire dissimer par un virus martien.
Est-ce qu'en revenant de la Lune, Armstrong et l'équipage ont été confinés?
Absolument. Rappelle-toi des images lorsque les équipages d'Apollo 11 et les missions suivantes, on est allé jusqu'à Apollo 17 en décembre 1972. Lorsque les astronautes revenaient, ils étaient amenés sur un porte-avions.
Oui.
Ils avaient une espèce de combinaison étanche, là.
Mm-hmm.
Et on les plaçait dans un véhicule, une espèce de caravane qui était argentée en aluminium.
Ben oui.
Et ils vivaient là-dedans pendant 2 semaines. Donc, on voulait bien s'assurer que sur la Lune, il n'y avait pas d'éléments pathogène qui aurait pu contaminer. Donc, il y a eu cette mise en quarantaine par des astronautes revenant de la Lune. Et on veut bien sûr s'assurer que des systèmes semblables, voire même plus pointus, parce que sur la Lune, on savait déjà qu'il n'y avait pas d'atmosphère, pratiquement aucune possibilité de vie. Mais avec Mars, là, on est vraiment dans un autre domaine et on veut s'assurer que ça ne se produise pas.
Quel est l'intérêt, rapidement, là, il te reste une minute, quel est l'intérêt d'aller aussi loin, d'aller sur Mars? Il y a bien des gens qui se disent, qu'est-ce qu'ils font là?
Bien sûr, en fait, c'est le propre de l'être humain de repousser les frontières et il y a des expériences qui pourraient être menées sur Mars et qui ne peuvent pas être menées par des robots parce qu'ils doivent, à moins de créer une espèce d'intelligence artificielle, oui. C'est peu vraisemblable. Et ensuite, bien sûr, on pense au futur de l'humanité. Bientôt, c'est Stephen Hawking qui disait, dans 150 ans, si on n'a pas trouvé le moyen de déplacer des humains, la Terre sera surpeuplée. Exact. Il faut penser à autre chose.
Merci beaucoup. D'ailleurs, si Christophe Colomb et Jacques Cartier n'étaient pas là, on ne serait pas ici. Et
absolument.
Voilà. Salut
absolument.
Bien. Bye-bye.
Salut.
À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. On se retrouve demain, évidemment. C'est vendredi demain. Incroyable. Alors, merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe également d'avoir préparé cette émission. On se retrouve demain. Bonne soirée.